Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir à la Galerie Mola pour cette lecture exceptionnelle faite par Marie Dariussec de quelques pages du livre, du roman qui sera publié à la fin du mois d'août prochain et qu'elle a terminé, m'a-t-elle dit, hier. Cette soirée est organisée par une petite association, Black Empire L'Autre Rive, qui est animée et dirigée par Sophie Jossy, ici présente, et moi-même. Et cette soirée bénéficie d'un double partenariat. D'abord, avec le service culturel de l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, où j'exerce. C'est le service culturel qui a rendu matériellement possible la venue de Marie Dariussec. Et l'autre partenariat, c'est avec la librairie Mola. Et je tiens à remercier M. Denis Mola, Corinne Krabos, ici présente, et l'ensemble de l'équipe pour le travail en profondeur que nous pouvons faire avec la librairie. Vous n'êtes pas venu m'entendre ni m'écouter. Je dirais juste deux mots. Je suis de celles et de ceux qui pensent que quand un écrivain accepte de lire quelques pages, inédites ou pas d'ailleurs, cela vaut souvent de nombreuses heures de cours, y compris d'ailleurs mes propres heures de cours. Il y a, de la part d'un écrivain qui lit un texte, une sorte de critique en acte. Et écouter un écrivain lire, c'est apprendre ce qu'est la littérature, apprendre la confrontation avec le texte et avec la langue. Donc je tiens à remercier vivement Marie Dariussec, qui a accepté de venir à Bordeaux. C'était en juin dernier, lorsque j'étais à Hambourg pour y enseigner. Nous avons échangé par mail. Et Marie Dariussec a accepté tout de suite l'idée de venir à Bordeaux pour montrer, en quelque sorte, son roman en chantier. Alors, celui-ci est achevé. Je la remercie. Je me tais. C'est elle qui va à la fois situer sa lecture et procéder à la lecture.
Alors bonsoir, merci d'être là et d'être là nombreux. Ça fait plaisir pour un roman donc qui n'est pas encore publié. Je l'ai effectivement terminé demain. Demain, quel lapsus! Je l'ai terminé hier et j'ai rendez-vous après-demain avec mon éditeur POL, qui Paul Ochakowski-Laurence, donc, qui l'a déjà lu dans une première version il y a à peu près un mois. Qui en était content, qui m'a donné des suggestions, que j'ai suivies ou pas, mais ça m'a permis de le relire, d'encore changer des choses, etc. Et là, hier, j'ai l'impression d'être arrivée au bout. Il va encore sans doute me faire d'autres remarques, mais je crois que là, on y est. On va le publier donc fin août pour la rentrée littéraire prochaine. Et je dois dire que pour une fois, ça ne m'arrive pas très souvent, j'ai un peu le trac. Parce qu'au fond, je sais pas encore très bien moi-même ce que c'est ce roman. Je suis dedans depuis 2 ans à peu près. Il fait vraiment partie de moi là. Voilà, il n'est pas encore sorti de moi au sens où publier, c'est rendre public, c'est vraiment se débarrasser aussi quelque part d'un travail. Donc je ne sais pas encore très bien ce que c'est que cet objet. J'en ai lu quelques pages à Yaoundé, au Cameroun, il y a un mois, les toutes premières pages. Et ça rendait un écho intéressant là-bas, puisque donc, c'est un roman qui se passe en grande partie en Afrique, et plus précisément au sud du Cameroun. Au départ, quand je l'écrivais, je pensais faire comme font d'ailleurs énormément d'écrivains, c'est presque une tradition, y compris des écrivains africains, de situer les romans dans une Afrique imaginaire, dans un État africain imaginaire. Et puis, à mesure que je l'écrivais, ça m'est presque apparu comme une facilité pour diverses raisons. Et donc, j'ai fini par accepter, au fond, de le situer dans un lieu très précis qui s'appelle, une petite ville du Cameroun qui s'appelle Kribi. Et disons, ça se passe dans la région de Kribi et dans la forêt vierge. On dit aujourd'hui la forêt primaire, mais bon, ça s'appelle la forêt vierge. Vous avez, pour suivre les passages que je vais lire, qui se situent plutôt vers la fin du roman, vous avez besoin de connaître certains éléments. Donc, il s'agit d'une actrice, d'une comédienne blanche, qui va tomber éperdument amoureuse d'un comédien noir. Et je travaille toujours depuis le début, je crois depuis Truisme, en fait, sur les stéréotypes. Truisme, c'est d'ailleurs, ça veut dire cliché, ça veut dire banalité d'évidence. Un truisme, c'est une de ces vérités comme ça qu'on croit savoir et qu'on redit, qu'on répand, qu'on répète. Et je crois qu'on peut lire tout mon travail depuis le début comme une exploration et une remise en question, évidemment, des clichés. Je l'ai fait pour la maternité, dans un livre qui s'appelle Le bébé, par exemple. Je l'ai fait sur les femmes très souvent, dans plusieurs de mes livres. Je l'ai fait sur la mort, dans Tom est mort. Là, ben voilà, ce sont les innombrables stéréotypes qui encerclent, qui écrasent, qui étouffent parfois la relation que peut avoir un homme noir et une femme blanche, ou une femme noire et un homme blanc, ce qu'on appelle un peu bêtement les couples mixtes. Mais bon. Eux-mêmes, les personnages, se débattent un petit peu avec ces stéréotypes, mais assez souvent aussi les oublient, les dépassent. C'est un roman qui circule entre cette évidence d'un amour compliqué, d'un amour passionnel, et puis cet obstacle éventuel qu'est la différence, peut-être pas tant de couleur, mais d'origine. Obstacle qui est aussi une nourriture, parce que c'est aussi extrêmement riche de s'aimer par-delà les continents, par-delà les couleurs. Donc ça, c'est un petit peu pour le contexte, disons, théorique. Après, c'est une histoire très concrète d'une femme qui poursuit un homme, d'une femme qui suit un homme jusqu'au bout du monde. Cet homme va tourner un film. Il est comédien, mais il va tourner un film. Il est obsédé par le roman de Conrad qui s'appelle « Cœur des ténèbres », le célèbre roman de Conrad, que Coppola avait tourné pour « Apocalypse Now ». Et c'est un homme noir qui porte un regard sur ce Cœur des ténèbres, qui est un peu là aussi la tarte à la crème, le stéréotype maximum des romans qui se passent en Afrique. Donc il va en faire un film à sa façon. La femme s'appelle Solange et l'homme s'appelle Kouesso. Je pense que là, vous avez à peu près tous les éléments. Solange va poursuivre en fait Kouesso jusqu'en Afrique, jusque sur le lieu de tournage. Elle a un tout petit rôle sur le film, elle a obtenu un tout petit rôle et en fait elle va essayer d'occuper le plus de place possible. Et elle a sa part de naïveté, sa part de maladresse. Elle n'a jamais mis les pieds en Afrique. Alors je vais vous lire des extraits dans l'ordre du livre, mais en sautant pas mal de pages. Et tout le monde ne me voit pas, mais en gros quand je sauterai des pages, je ferai ce geste-là. Voilà. Et puis vous entendrez bien que de toute façon, il y a un espace qui manque un bout. Bon, c'est pas très grave. Tu peux m'aider ?
Bien sûr. Merci. C'est l'atelier d'écriture qui arrive.
Bonjour. Donc, elle vient d'atterrir. Elle a d'abord atterri à Douala. Elle fait un parcours un peu bizarre. Ensuite, elle va à Yaoundé. Et voilà, on est à Yaoundé. Elle est au Hilton parce que, bien sûr, c'est une comédienne. Elle est un peu dessous. Elle est un peu chic. Donc, elle va au Hilton. Elle ne va pas descendre n'importe où. Et donc, elle est au Hilton à attendre la voiture qui vient la chercher pour l'amener sur le lieu du tournage. Yaoundé, le Hilton, à attendre la voiture. Le trajet était absurde, mais c'est l'assistant de production qui avait tout organisé. Vu de Hollywood, Douala, Kribi et Yaoundé devaient sembler un Scrabble éparpillé sur une table. Elle avait déjà suffisamment insisté pour venir en avance, elle gardait pour elle ses considérations géographiques. Kouesso ne répondait pas. Le réseau, peut-être, la forêt. Le chauffeur prévu par la prod était en ville, il arrivait. Comment faisait-on avant les téléphones portables ? Le 4x4 sentait le pain des Landes, la clim était à fond. La ville s'aplatissait comme les arbres montaient, de moins en moins de baraques, de plus en plus d'arbres, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des arbres. On pouvait difficilement appeler ça un paysage. On ne voyait rien passer le bord de la route, passer ce premier rang d'arbres, une sorte de haie monstrueuse. Le mot « forêt » lui-même était inefficace. Il y avait autant de différence entre cette forêt et la forêt des Landes qu'entre l'Atlantique et le lac de Côme. Il ne s'agissait pas du même concept, ni même du même matériau. Vert, tant qu'on voulait, mais charnu, énorme, protubérant. Et la piste était pénible. Le macadam avait cessé. Creux, bosses, fossés au milieu de la route. Selon ses critères à elle, ce n'était pas une route, c'était une tranchée, un ravin, avec des ponts de planches. Pourtant, fait quoi, peu à peu elle se rapprochait de lui. Elle opérait une dernière trajectoire le long de l'arc de cercle qui les séparait encore. Le roman est parfois ponctuée de petites expressions d'argot camerounais. Fais quoi, c'est une expression qui est en italique dans le texte. Le chauffeur s'appelait Patricia. Non, Patricien. Il était à moitié baka. Ah. La radio chantait sur des rythmes congolais. Nous avons posé le problème, nous n'avons pas posé la solution. Elle avait faim, ils s'arrêtèrent. Le bled, 10 cases, une antenne téléphonique et un panneau écrit à la main, s'appelait Washington. Un vendeur en plein soleil proposait des Nokia et du manioc. Patricien lui montra, pardon Madame Solange, comment éplucher le bâton de manioc pour dégager la pâte blanche, douceâtre, franchement dégueu. C'était ça qui donnait les épidémies de typhoïde, lui dit-il. Meilleur était de manger du plantain frit, mais quoi, on n'en avait pas là. Elle se frictionna les mains au gel antiseptique et aurait bien aimé se brosser les dents. Violente piqûre sur son bras. C'était un mout-mout. Ça ne pique pas, temporisa Patricien, ça mange. Elle se temporisa d'insectes écran spécial tropique. Meilleur était spécial équateur, non? Son portable sonna. Était-ce Kouesso? Non, sa mère, depuis Clèves. Est-ce que tout se passait bien? D'entendre les cloches du village, il était midi ici comme là-bas, son ventre se déchira. Est-ce que Jessie n'avait pas raison? Est-ce qu'il n'était pas physiquement insupportable d'être à deux endroits à la fois? Est-ce que la planète, dans sa rotation, ne se vengeait pas d'être ainsi dédoublée? Les toilettes étaient objectivement un problème. Ils trouvèrent un trou dans une cahute, son mal au ventre persistait, moitié trac, moitié manioc. Elle avala deux gélules d'imodium avec un soda chaud. Selon Patricien, il restait dans les 4 heures de route. Je saute un peu. Il repartait dans le climat norvégien du 4x4. Soudain, elle eut un texto. Les lettres s'agencèrent dans les mouvements de la piste. Kouesso. Un texto qui avait... À ce moment-là, j'ai un texto. Je vais couper mon téléphone. Un texto qui avait voyagé via les satellites pour lui parvenir ici, à Washington, dans ce bled où il n'y avait rien, pour se poser sur la très haute antenne, plus haute encore que les arbres, pour former des mots magiques, des mots adressés à elle. Alors, l'Africaine. Ça lui ressemblait. Rien, et puis ça, ça lui ressemblait. Elle envoya un petit smiley avec des ronds et des croix pour des baisers. À la réflexion, elle envoya aussi un récapitulatif du programme, son arrivée ici, d'ici 4 heures à Potipoko. Est-ce que ça lui convenait? Où se retrouvait-on? Est-ce que tout allait bien? Les arbres défilaient, oui, les arbres très hauts défilaient. Il fallait pencher la tête pour apercevoir leur tête. Le ciel fendu par-dessus la piste semblait un fleuve à l'envers. Mais qu'importe les lieux et les temps, le monde ici et maintenant était à nouveau peuplé d'un seul homme. Je vais sauter un petit peu. Donc elle le retrouve après d'autres péripéties dans un bled qui s'appelle Potipoko. Et il accepte de l'emmener sur le tournage. Il l'aime peut-être, j'en sais rien, mais elle l'embête un peu. Elle est un peu encombrante. Dans la pirogue, elle avait très chaud. La pagaie plongeait dans le fleuve comme dans de l'huile. Les oiseaux même se taisaient. Cette chaleur, c'était stupide. Elle ne pouvait s'empêcher d'ouvrir la bouche, mais l'air du dehors était beaucoup plus chaud que l'intérieur du corps. Kouesso fermait les yeux façon persienne et le piroguier, torse nu, ne cessait de s'asperger. Il pagayait la chaleur, il touillait le fleuve et le ciel, il se diluait dans les mirages. Le plat de l'eau était parcouru d'ondes qui portaient des voix, des chocs, d'étranges bruits sans source. Les vibrations entraient dans le corps de Solange. Elle avait des visions de la maison à Malibu, l'ombre méditerranéenne, la salle de bain aux carreaux blancs, la mer qui brassait la fraîcheur. C'était hier, c'était avant. Elle aurait aimé contempler la forêt, avoir la sagesse des peintres et des écologistes, mais cette Afrique verte et orange qui tremblotait n'était qu'un problème de plus. Aucun de ces arbres n'expliquait Kouesso. Il ne lui opposait qu'une autre énigme, impénétrable, dangereuse, un règne non humain, l'affirmation d'une puissance ailleurs réduite à la sciure. Loin devant, on devinait le chantier. Des bulldozers étaient en train de défricher le bord du fleuve. Des ouvriers posaient des rails, épaules ruisselantes en plein soleil. Kouesso voulait un travelling sur l'arrivée du bateau. Les palétuviers arrachés ressemblaient à de grosses araignées mortes, pattant l'air. On les déblayait, le palétuvier ne sert à rien. Les fromagers, on les débitait en tranches, on en fait du capoc et du contreplaqué. Les acajous, occasionnels, on les vendait en grumes. Elle apprenait des mots. Il y avait beaucoup d'arbres sans mots, qui poussaient loin de la langue française. Le bibinga, disait le piroguier comme on longeait ses monuments. Le zoubé, l'écan, l'alep, l'okongbegui. La greffe n'avait pas pris entre le français et ses formes extravagantes, ses racines volumineuses, cette verticalité tenue. sauf celui-ci, haut et très courbe, très vert, exubérant. Du rotin, ni table ni chaise. Du rotin vivant, qui plongeait ses palmes dans l'eau. Ici, on disait Nlong. Et Freeboy, un des guides pygmées, portait sur les mêmes arbres d'autres syllabes encore. On aurait dit pour un seul arbre autant de noms qu'il y a de cercles de pouces. Et la tronçonneuse tranchait. Tec. Plus lentement. Et ben. Ça finirait en planche pareil. Les pygmées, eux, on les déplaçait. Olga, c'est la costumière qui s'occupe aussi des accessoires sur le tournage du film. Olga était là. Ça aurait été un plaisir de la retrouver si elle avait eu la tête à ça, Olga. Mais les sarbacanes made in China s'étaient perdus entre Shanghai et Douala. Les boîtes de fléchettes, elles, étaient bien arrivées. Mais le comportement des douaniers à Douala déroutait Olga. Un jour, les sarbacanes étaient considérées comme des armes de destruction massive et leurs containers bloqués. Un jour, elles n'étaient jamais arrivées. Un jour, le colis était bien là, mais ce n'était pas un colis de sarbacane. Dans tous les cas, il fallait les dédouaner au prix de l'or. Olga s'était résolue à commander à un artisan local 200 sarbacanes en bois tendre. Le bois, ce n'était pas ça qui manquait. En revanche, il ne connaissait dans le coin que machette et sagaie. Il avait fallu faire des dessins et calibrer au bon format. Une par une, il les faisait, le manufacturier local. Il s'appelait Ignace, il en était à 180. Tout le village s'entraînait, les 200 figurants, quasi tous les hommes et aussi les femmes quand elles n'avaient pas mieux à faire. On trouvait partout par terre des fléchettes en plastique. Solange était assise à l'ombre d'un frangipanier sur une chaise apportée pour elle. Elle se brumisait d'eau. Les pieds de la chaise s'enfonçaient dans le sol. C'était comme une grande sieste. Elle se sentait se végétaliser. Il fallait seulement se méfier des fourmis. Si une colonne de fourmis arrivait, s'écartait de leur chemin. Le sol était de feuilles mortes, parcourues de petits scarabées, et de lianes vivantes qu'elle croyait entendre pousser. Par sursaut volontaire, pour secouer la chaleur, elle se décalait dans le compas de l'ombre. Elle avait des visions de Kueso, des apparitions, des éclats. Il travaillait, il réalisait. Moteur, ça tourne, coupé. Elle avait du mal à y croire, du mal à adhérer. Elle était sur un tournage sans jouer, ne sachant que faire de ses mains, de ses yeux, de son corps, de ses pensées. Quelque chose flottait, comme de l'air qui fige. Tout vibrait dans les blocs de chaleur. Tout goûtait, une grande transpiration du monde. Ici, à l'équateur, à la ceinture de la Terre, c'était comme un zona qui faisait lentement le tour, en passant par elle, Solange, sur sa chaise. Une maladie qui, au terme de la boucle, la détruirait. L'insecte écran n'y faisait rien, elle se grattait. Des cloques. Kueso semblait insensible aux contingences, il était passé ailleurs, dans la fiction. De temps en temps, elle croisait son regard, elle aurait aimé se lever, l'embrasser devant le monde. Mais à la fin de la journée, les pieds de la chaise avaient laissé, dans l'humus permanent, des trous fins et profonds comme ceux des crabes araignées. Un autre chapitre. Tous les chapitres ont des titres, pour une fois, et celui-ci s'appelle « Seuls les gens sans vision s'échappent dans le réel ».« Seuls les gens sans vision s'échappent dans le réel ». C'est un proverbe que m'a cité un ami sud-africain qui s'appelle Santu Mofokeng, qui est un très très grand photographe. Et j'adore cette phrase « Seuls les gens sans vision s'échappent dans le réel ». Kueso, donc, dormait rarement, en tout cas rarement au village. Elle entendait revenir les 4x4 du fleuve, des grottes, de Kribi. Elle lui téléphonait, mais il ne la prenait pas. Elle allait frapper à la porte de sa case. Le vigile regardait dans le vide, immobile et ridé comme un varan. « C'est moi !» disait-elle. Pas de réponse, mais elle entendait le ventilateur de l'autre côté du mur debout. « C'est moi !» répétait-elle plus fort. « C'est moi ! C'est Solange !» Il la laissait entrer, le plus souvent. Le regard du vigile était posé sur le lointain, vers le mur noir de la forêt. Des orages grondaient, passaient, ne pleuvaient pas. Une noria de Toyota faisait l'aller-retour de Kribi. Il fallait de l'eau pour la machine à pluie, de l'eau fermée, entre guillemets. Jessie, c'est une star noire hollywoodienne. On peut imaginer Will Smith ou d'autres gens. Jessie ne tournerait les scènes d'averse que sous Evian. 1 000 francs la bouteille importée via Douala. Si une seule goutte d'eau non minérale, même chlorée, entrait dans la bouche de Jessie, avait averti son avocat depuis Los Angeles, si une seule goutte non potablement locale l'infectait à nouveau d'amibes ou de Dieu sait quelle horreur africaine, la production et Kueso en répondraient. La machine à pluie, chargée d'évian jusqu'à la gueule, fut montée à bord par 6 locaux et camouflée à coups de tôle en appendice de machine à vapeur. C'est un petit bateau vapeur, donc. Solange fut aussi montée à bord et cachée à moitié corps en soute. Moteur, fumigène, action. Il fallait que la pluie brasse aussi le fleuve, le perce de ses ronds et rebonds. Tout le monde était trempé, la caméra sous bâche, l'opérateur sous parapluie. Et Jessie, à demi nue, luisait, bondissait, sauvage, plus que sauvage, absolument ravi de faire le fou. Il ouvrait grand sa bouche à plateau d'or et buvait l'eau à 1000 francs. Buvait l'eau française dont les molécules alpines, super claires, super pures, se combinaient à celles du fleuve marron. La compagnie, comme Cueso appelait la prod, la compagnie n'allait pas apprécier. Quelle rentabilité pouvait-on espérer d'une entreprise qui jetait les billets de 1000 à la baille? Et pourquoi pas filmer sous une pluie de champagne? Plus tard, le bateau abordait la rive en silence. La pluie hollywoodienne avait cessé, Cueso était content, sa scène, il l'avait. On tournerait demain la pluie de flèches, 200 figurants sous les ordres de l'assistant qui tireraient 5 fois chacun. Et quand les rails seraient enfin prosés, le travelling. Dans l'immédiat, il y avait comme un bruit. « Coupé !» dit le preneur de son. Une musique inouïe, des pocs et des pas, des tchouks et des claps, montant dans les aigus, descendant dans les graves. Un tam-tam, mais d'un genre mouillé, doux comme un accent. Elle croyait entendre la voix de Cueso montant de partout sur le fleuve. C'était un comité d'accueil pygmée. Enfin, on ne savait pas. On ne savait pas si elles faisaient exprès les pygmettes. En tout cas, elles étaient là comme chez elles. 12 ou 13 ans, entièrement à poil, de petits seins pointus et de l'eau brune jusqu'à la taille, à tam-tamer l'eau plus du plat des mains en cœur. Une technique ahurissante, une harmonie du début du monde. On en serait devenu sentimental. « ça tourne !» cria Cueso. Solange le vit qui voyait. Filmer ça, ni costume, ni époque. Elles étaient là depuis toujours, les petites pygmées nues, et Conrad les avait vues. Mais elle s'était arrêtée de jouer, debout droit dans le fleuve comme des i d'avant la lettre. « Musique !» leur criait Cueso. « Go on, bordel ! Waka waka, les filles ! Tam tam !» Elles s'échappèrent, fesses nues couleur noisette bondissant dans les oreilles d'éléphants. Ce sont de grandes palmes. C'était fini, coupé, ça ne serait pas à l'image. Cueso sauta sur la rive et frappa violemment du poing dans le pli compliqué d'un arbre. Ça fit toc. Tout le bateau se taisait. « Elle serait peut-être là demain ?» tenta Solange hors de la soute, en proie à un léger mal de fleuve. Cueso s'enfonçait dans la jungle. On ne peut pas s'enfoncer dans la jungle. Une longue liane épineuse avait attrapé tout l'arrière de ses vêtements, épaules, dos, reins, et Freeboy coupé, et à ses pieds aussi, dans les racines, dans les machins. « Tchac !» faisait la machette. Freeboy avait trouvé leur sentier. Les filles étaient là, vives et curieuses, prêtes à détaler. « Achia !» dit Freeboy. Elles répondirent « Achia !» Une petite main pudique sur le pubis, l'autre tendue vers elle, Solange. Elle voulait quoi ? La bouteille d'Evian qu'elle avait sauvée du déluge. La plus audacieuse la prit à deux mains et l'ouvrit. Elles burent, chacune à leur tour, comme un nectar. La rendirent à Solange, soigneusement rebouchée. Quelle maladie, quel parasite contenaient ces petites bouches, ces petites mains, ces ventres bombés ? Plus tard, au village pygmée, Freeboy et Cueso parlaient avec le chef. Réellement petit, le chef. Que les pygmées soient petits, c'était là une des surprises que réserve le monde, la confirmation d'un cliché, la coalescence d'un fait et d'une idée. On dit « baka », pas « pygmée », protestait Patricien, à moitié baka lui-même, d'ailleurs de taille moyenne. Il s'agitait. Ordre de Cueso d'aller acheter, à Petit Poco, tout de suite, 50 whisky sachets, c'était le prix convenu pour que les gamines redonnent un concert. « Il y a de quoi tuer le village », dit Patricien à Solange. Il la ramenait à Petit Poco, pirogue puis 4x4. Solange avait très très chaud et mal à la tête. « Il faut boire de l'eau », disait Patricien. Mais le reste des viands, dans la bouteille, lui semblait concentrer tous les virus du monde. Plus tard, Solange avait la fièvre. Les imaginait-elle, les tam-tams au loin, où le village pygmée faisait-il la fête, à coups de ces petits sachets plastiques dont elle-même goûtait les bienfaits ambigus, pleins d'un breuvage doré, très fort et très mauvais, mais brûlant, et qui semblait ouvrir des passages dans la moiteur. Je vais sauter un petit peu. Donc, il lui explique que la scène qu'il a prise, voilà. Bon. Il avait besoin de son avis. Il lui montra les rushs sur son combo portatif. Ces bêtes de gamines s'étaient habillées pour leur concert. L'une en t-shirt David Beckham, l'autre avec une sorte de grenouillère petit bateau distendu pour être à sa taille. Dans l'eau, ça donnait un genre de concours Miss Pygmée t-shirt mouillé. On voyait l'assistant de Cueso, puis Cueso lui-même, puis plusieurs géants noirs et un géant blanc, le preneur de son. Tout l'équipage du film entrait dans l'image et tentait de les convaincre. Jessie faisait claquer son plateau doré comme un dentier, ça terrifiait les petites. Elle se déshabillait et jouait timidement du plat des mains dans l'eau. Pic à poc, poum poum clac, c'était nul, inutilisable. Et leur incessant regard caméra, impossible. Cueso s'était trompé. Même sur le vif, qu'est-ce qu'il en aurait fait ? Il en convenait. le genre d'autocomplaisance qu'on coupe ensuite au montage. Ce dont il avait besoin, ce n'était pas de deux gamines documentaires, c'était de sa scène de Sarbacane. Seuls les gens sans vision s'échappent dans le réel, c'est ce que disent les Zoulous. Roman, cinéma, attaque du bateau, essaim de flèche, Jesse, hémorragie. Il faisait des grands gestes avec les mains, il mimait, debout, la réponse des armes à feu, Winchester et Martigny-Henry, bang, bang, et la forêt qui commence à hurler. Il était le film, il était les arbres, il était le bateau et le fleuve à lui tout seul. Il était la flèche et le fusil, le cadavre et l'exterminateur. Ils burent ensemble quelques whisky sachets. On perçait un trou avec les dents. Il y avait un silence, la chaleur et la fatigue qui les rattrapaient. « Quand même, lui dit-elle, ce n'est pas le Congo. » Il avait voulu voir Paris, lui, les monuments. Elle voulait voir le Congo, les crocodiles. Heureusement, le Ntem, le fleuve, n'en contient plus beaucoup des crocos, surouillait-il. Il avait vu, lui, le Congo, les bateaux pourrissant sur le poule Malébo. On aurait passé le tournage à payer et repayer, à envoyer à la compagnie des bouts de papier spongieux sur lesquels seraient écrites au bic des quittances du style « taxe d'autorisation de départ » signée par un type armé d'une kalachnikov qui répondrait au nom de un seul œil, suivi d'un autre, 8 jours plus tard, pour une autre taxe, pour un autre militaire, suivi d'un autre papier, jusqu'à péremption, élimination du fonctionnaire, remplacement par un autre gang, augmentation, interdiction, rançon, et le bateau n'aurait toujours pas bougé. Ici, on ne payait que de temps en temps et à des gens qui avaient un nom. « Quand même, » insistait-elle en tétant son sachet de fighter et sans plus trop savoir de quoi elle parlait. Des créatures zonzonnantes les attaquaient. Il enroula la moustiquaire autour d'eux, ventilateur braqué sur les plis. Ils firent l'amour dans le cocon humide, râpeux, traversé de courant. L'électricité sauta, l'électricité revint. Plus tard, le bidon qui leur servait de chevet semblait bouger tout seul et sonner comme une cloche. Des souris qui se disputaient ses biscuits bio. Kouesso les chassa. Elle sentait ses mouvements couper le flux du ventilo. Dans l'ombre de la chambre, elle ne le voyait pas, pour de bon l'homme invisible, noir dans la nuit, air dans le vent. Je saute un petit peu. Je vais lire encore à peu près 5 minutes. Donc une autre scène qui vont tourner dans la forêt elle-même. Ah oui, d'abord je vais lire ça. Elle est invitée à un repas de fête. Un pangolin, un bête pangolin. On le pendit par la queue à l'entrée de l'auberge où elle est. 1,30 m pour 40 kilos, un pangolin de belle taille, le format d'un enfant de 10 ans. Solange restait sous le porche avec la bête que venaient admirer les connaisseurs. On marchandait. Sa bouche étrange, ronde et édentée, semblait téter la poussière jaune. Solange connaissait les taupes, même très grosses, du jardin de sa mère au Pays Basque, mais ça, elle n'avait jamais vu. Freeboy, le guide pygmée, voulait un acheteur pour l'ensemble de l'animal. Il l'avait tué en disant les paroles, en lui demandant la permission. Il ne le laisserait pas débiter comme un vulgaire porc-épic. C'est Patricien qui l'obtint, entier, pour l'anniversaire de sa femme Acribi. 50 convives sous un auvent de feuilles, des jerricanes de vin de palme, des musiciens. Le plus difficile dans l'assiette, c'était les écailles. Patricien disait qu'ils disparaissent, les pangolins. Leurs écailles sont considérées comme magiques. C'est le seul mammifère non humain à marcher sur les pattes arrière en s'aidant de sa queue comme un balancier. Strictement nocturne, creuse des terriers, bouffe des termites, ses grosses griffes éventrent leur tour, crac. Sinon, un goût un peu comme le canard, confit à la sauce arachide. Cribi est une jolie ville. Patricien logeait dans une bicoque en bois blanc, moisie mais agréable. Il n'était plus pauvre, mais pas riche, pas de vigile devant ce qu'il nommait sa résidence. Non loin de là, il y avait la cathédrale, le quartier dit français, 2 ou 3 maisons coloniales, un genre de casino et un hôpital rustique. Et puis bien sûr, les inévitables cases, les cabanes, en n'importe quoi. La femme de Patricien avait fait des études à Yaoundé. L'hôpital datait du 19e siècle, à tous les sens du terme. Il y avait des choses intéressantes à visiter. Elle reçut un texto en plein repas. « Commencez sans moi. » Il avait signé « K », lui qui ne signait jamais, comme si l'ambiguïté avait été possible. « K », comme si elle avait pu attendre un autre homme. Elle buvait du matango, jaune et moussu. Elle mangeait du tapé-tapé. Et ce caillou qu'elle avait dans la gorge, ce stupide nœud dans le ventre qui datait des jours d'attente depuis Los Angeles, se dissolvait un peu. Le soleil jetait des confettis à travers le toit de feuilles et elle se voyait d'en haut, du ciel, des satellites, un tout petit point parmi les autres points, ivre et un peu nauséeuse, dans ce bout de lagune avant le fleuve Tnem, au bord de la grande forêt, au fond du golfe de Guinée, exactement dans le creux de l'Afrique. Très loin du creux où elle était née, le creux du golfe de Gascogne, l'angle droit familier, plus petit, plus kantchou, qu'elle avait laissé dans son sud-ouest à elle. Assise ici, à ce repas de fête, à bouffer du plantain à du pangolin mort comme si elle avait fait ça toute sa vie. Kuweso l'avait teinté, il l'avait rendu un peu noir, et les autres ici le savaient. Elle s'imprégnait de leur accent chantonnant, comme à Clèves dans son village, quand elle s'adaptait aux hommes sans instruction, aux femmes sans carrière, aux enfants sans avenir. Mais ici, elle restait vigilante, car les réponses la surprenaient. Elle réfléchissait, elle faisait répéter. Elle riait à contre-temps aux blagues et il la trouvait mignonne. Elle s'africanisait avec une maladresse qu'il lui pardonnait. Oubliait qu'elle était blanche, toute leur politesse était là. Et elle, elle l'oubliait. Et Kuweso, elle l'oubliait, un peu. Elle le diluait dans la fête autour du pangolin. Elle le voyait partout mais nulle part. Elle souriait à tous. Vouloir se faire aimer de tout le monde plutôt qu'un seul, ça lui faisait comme un repos. Et un petit passage plus loin, dans la forêt, donc ce que j'avais en tête. J'hésite, hein, excusez-moi. Le relire, ça me fait un drôle d'effet aussi. Allez, pourquoi pas ça ? On repartait, on escaladait des troncs tombés, on se donnait la main dans des rochers. Mbali et Tumelos ressortaient les machettes pour des branches sur le sentier. C'était long. Il y avait eu des orages, on n'avait pas prévu de tronçonneuse. Freeboy boudait au milieu du cortège, pour diverses raisons. Plus tard, plus rien au-dessus de leur tête qu'un ciel laiteux éblouissant. Le sol s'asséchait, on marchait mieux. On avait le sentiment d'avoir enfin le dessus. La forêt étalée, dominée. Quasiment cultivée, la forêt. On voyait les arbres de haut, la fichue canopée, ce moutonnement de brocolis géants percés de tiges, de sommets d'artichauts et de crêtes de persil. On retrouvait dans le vide de sa tête un bout de moi à réenfiler comme un vieux chapeau. La sensation de se tenir debout, de s'étirer, de contempler. Mais il fallait monter encore. Elle chercha quelque chose à désirer, quelque chose pour elle, autre que Kuweso, quelque chose qui lui rappellerait un sol dégagé, les gares et les aéroports, la terre ferme, les rues, les prés, un souvenir d'enfance où se rembobiner. Je vous saute le souvenir d'enfance. On arrivait sur un plateau granitique. Un dernier fromager faisait comme une main plongée dans la pierre. Le ciel était rouge. Les hommes s'appuyaient aux profonds plis de l'arbre. Des ailes, des rideaux entre lesquels on pouvait s'allonger. Kuweso était parti encore devant, aux grottes, voir l'état du décor. Mbali et Tumelo ôtèrent leur sac à dos et sortirent une gourde de vin de palme. Germain posa le petit groupe électrogène qu'il portait depuis ce matin sur sa tête et qui lui avait fait une étrange silhouette de robot. Freeboy mordit dans un whisky sachet et l'équipe dite blanche fit de même. Un paquet de Marlboro circulait. Des tentes commençaient à pousser. Hilaire envoya chercher du bois. Béton et Tadé allumaient un feu, très classiquement, avec un briquet. Georges, Vincent, l'agent de Georges et Patricien jouaient au poker sur un tronc abattu. Welcome testait du rouge à lèvres. Lala. Olga dormait déjà, la tête contre sa malle de costume. On aurait dit un cirque ambulant qui se serait gravement trompé de route. Ôter ses bottes, se doucher. Son désir, c'était ça, voilà. La nuit tombait et les mouches, les moustiques attaquaient. Elle cacha dans ses gants les derniers centimètres carrés de peau nue de son visage. Je saute un peu encore. J'hésite pour le tout dernier passage. Oui, voilà. Ils étaient sur une île volcanique émergée de ce bazar. On voyait comme d'un phare, des filets de brume qui devenaient roses avec la chute du soleil. Un énorme peuple d'arbres, aussi dense qu'une mer de nuages, gonflé, ondulant, serré, mais vert de toutes sortes, arrondi de dôme en dôme à l'infini, dans un agencement qui ne devait qu'à la forme des choses, qu'à la structure de ce qui pousse, à rien d'humain. C'était le Gabon et puis le Congo là-bas, le Congo, où on n'irait pas. Le ciel devint entièrement rouge puis s'éteignit. Il était 6 heures. On entendait s'abattre des géants, des supernovas de feuilles et de poussière et d'arbres plus petits entraînés en explosion qui laissaient des trous. Il y avait des scieurs clandestins. La fuite des animaux s'entendait loin, les cris. Je vais arrêter là. Voilà.
Merci Marie pour la lecture de ces feuillets inédits de votre prochain roman. Je me permets de réagir, lire, c'est souvent faire état de l'écho ressenti à la lecture d'un livre. Et j'ai envie de vous dire que, comme l'assistance ici même, en vous écoutant, j'ai découvert votre prochain roman. Et j'ai eu, vous savez, j'ai travaillé et vécu en Afrique. En vous écoutant, j'ai eu des représentations mentales. Ma première rencontre avec les Pygmées Baka du côté de Mbaïki, non pas au Cameroun, mais en Centrafrique. La nudité, les t-shirts déchirés, la quête des bouteilles, des bouteilles vides en plastique ou en verre. C'est une richesse pour ces populations. Je serais très prudent, mais j'ai envie de dire que, vraisemblablement, en tant qu'écrivaine et écrivaine française, vous avez réussi à dire l'Afrique.
Oula, on verra. Alors, ça à la rentrée.
Je suis prudent. On verra à la rentrée. Et puis, nous laisserons nos amis africains apprécier vos livres. Mais il me semble que il est question vraiment de l'Afrique dans les pages que vous avez lues. Alors, je suis tenté de vous dire, ce personnage féminin, Solange, c'est le personnage de Clève qui a grandi.
Voilà, exactement. Oui, c'est le... Alors, pour ceux qui ont lu mon roman précédent, j'ai laissé donc Clève Solange à la fin du roman, elle a à peu près 15 ans. Et là, on est 20 ans après. Elle a fait une carrière de comédienne assez réussie, en fait, qui l'a menée jusqu'à Hollywood, où elle est un peu spécialisée dans les rôles de française, quoi. C'est une sorte de mixte entre Julie Delpy, un tout petit peu Emmanuel Béard, plus discrète, disons. Mais bon, elle fait son bonhomme de chemin. Et de façon tout à fait inattendue dans sa vie, elle tombe folle amoureuse d'un comédien noir. Donc, pas afro-américain, mais africain. Parce qu'il y a toute une partie du livre aussi qui cherche à faire la différence, à comprendre. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est noir, j'ai envie de dire. Il y a une phrase sublime de Jean Genet à propos de sa pièce Les Nègres qui dit « Qu'est-ce que c'est un noir et d'abord c'est de quelle couleur ?» Je trouve ça d'une très grande intelligence. C'est pas parce qu'on est noir, voilà. Et donc le roman, entre autres, développe cette idée qu'on attend d'un noir qu'il soit noir. De même, même si c'est pas exactement comparable, qu'on attend d'une femme qu'elle soit femme. Et en fait, ce sont deux identités, comme ça, cette Solange et puis ce Kouesso, qui vont essayer de se rencontrer, alors que le monde entier leur demande des trucs. Et leur demande pas de s'aimer, en fait. Voilà. C'est une rencontre un tout petit peu improbable. Et ils s'en sortent comme ils peuvent. Surtout qu'elle est totalement dingue de lui. Et lui, il a ce film à faire. Il est très, très habité par son idée. Il a des choses à dire. Voilà. Elle, c'est pas sûr qu'elle ait des choses à dire. C'est une comédienne. Bon, elle joue les choses qu'on lui demande de jouer. Et voilà, elle tombe amoureuse de lui. Une des choses auxquelles je me suis amusée, alors je vous vends un petit peu la mèche là, mais c'est que à peu près les 30 premières pages du livre, on ne sait pas qu'il est noir. On ne sait pas non plus qu'il s'appelle Kouesso. C'est un homme qui lui plaît énormément, qu'elle cherche à revoir, mais on ne sait pas qu'il est noir. Alors, je n'ai pas voulu pousser la virtuosité, vous savez, un peu comme Anne Garretta dans Sphinx, quand on ne sait pas si le personnage est homme ou femme. Hein, je ne voulais pas aller dans la virtuosité, mais je trouvais intéressant que le lecteur ou la lectrice soit obligé... si je dis dès le début que cet homme est noir, tous mes a priori et tous les vôtres entrent en jeu. On attend d'un noir qui soit noir, qu'on le veuille ou non. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'ancré en nous, de très solide, malheureusement, quoi. Et en l'écrivant, moi-même, évidemment, je savais qu'il était noir, mais je cherchais vraiment à déposer tout ce que je savais ou croyais savoir sur les supposés noirs. Bon. Et donc, en plus, en voyageant pas mal en Afrique, non seulement tous les noirs ne sont pas noirs, j'ai envie de le dire, mais tous les Africains ne sont pas africains non plus. Il y a des Afriques. Il y a une Afrique de l'Ouest, une Afrique de l'Est, une Afrique musulmane. Par exemple, le Cameroun, au sud du Cameroun où j'étais, on se fait pas enlever par Boko Haram. C'est un autre pays, quoi. C'est la forêt camerounaise, ce n'est pas le nord quasiment sahélien du Cameroun. Donc il y a des Afriques, il y a une multiplicité d'Afriques. Et puis, alors, chose que moi, j'ignorais totalement, c'est que quand je dis qu'on est toujours le noir de quelqu'un, en quelque sorte. C'est-à-dire, j'ai découvert que les pygmées, pour les bantous étant donc les noirs, pour aller très, très vite de la côte, quoi, hein, les pygmées sont extraordinairement méprisés par les bantous. Bon, tous les bantous ne sont pas débiles. Hein, enfin, il y a des bantous qui s'intéressent beaucoup à la culture pygmée. Mais la plupart des bantous que j'ai rencontrés là-bas dans les villages, pour eux, les pygmées, c'est vraiment des moins que rien. Et ça, je l'ignorais totalement. Voilà. Vu de Bordeaux, vu de Paris, vu de mon bled, les pygmées, c'est des noirs comme les autres. Enfin, je sais pas, c'est des noirs un peu spéciaux, peut-être, je sais pas, ils sont petits. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur eux. Mais... Donc, j'allais un peu de découverte en découverte. Et c'était une des choses que je voulais raconter. Les pygmées sont vus comme des sauvages par les bantous, en fait.
Ils sont les hommes de la forêt et les bantous sont les grands noirs.
Ouais, c'est ça.
Et dans un certain nombre de villages, d'ailleurs, ils sont salariés plus ou moins bien pour travailler dans les plantations.
C'est des esclaves, oui. Les bantous, les esclavagistes d'ailleurs, parfois, hein, c'est pas toujours aussi sombre, mais et puis c'est quand même étonnant aujourd'hui d'avoir réellement accès à des chasseurs-cueilleurs. Ce sont des gens qui vivent sans aucune accumulation de biens, par exemple, en se déplaçant dans des huttes en branchage. Bon, donc c'est vraiment alors que sinon, dans les villes, ce qu'on appelle les bantous, ben, ils ont des bagnoles et ils font des stocks de conserves comme tout le monde, quoi. Les pygmées, c'est pas ça du tout. Donc, c'est des mondes très différents qui se côtoient pas très bien. Et donc Solange débarque avec une certaine naïveté, tout en n'étant pas complètement débile non plus. Enfin, donc elle cherche son chemin là au milieu, et dans la forêt vierge, donc c'est assez compliqué.
Cette femme amoureuse, si vous me permettez, cette femme amoureuse vis-à-vis de cet homme, elle se comporte comme une moutmoute.
Oui, j'y avais pas pensé. Oui, elle le pourchasse un peu. Alors, il est quand même très... Il est aussi amoureux, hein, mais il est très occupé. Voilà, il est très, très occupé. C'est aussi un roman psychologique et c'est surtout un roman d'amour, quoi. Hein. Comment ça va se passer entre eux? Comment ils vont y arriver ou pas? Bon, c'est aussi ça qui m'intéressait, tout simplement.
Nous allons, bien évidemment, nous tourner vers l'assistance. Mais je voudrais juste vous poser une question. J'ai été frappé en vous écoutant tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose qui me paraît très juste. Pour nos amis africains, l'une des formes de politesse vis-à-vis de nous, c'est de ne pas nous faire sentir que nous faisons tâche.
Oui, exactement.
Que nous sommes blancs. C'est souvent cela. Mais est-ce que ça signifie que Solange, si elle s'adapte à l'univers africain, est-ce qu'elle va parvenir à la situation où tel de ses interlocuteurs africains lui diront que, en fait, elle n'est pas blanche? C'est sans doute une africaine réincarnée.
Non, il n'y a pas cette scène-là, même si j'ai pu avoir des conversations de cet ordre-là en Afrique. Par contre, bon, une des choses que je n'ai pas voulu lire là, parce qu'aussi, il y a un ensemble... c'est un livre aussi sur les clichés, hein, y compris... Bon, une des choses, au fond, qu'on attend en Afrique et qu'on trouve... C'est la sorcellerie. Elle est très présente, elle est très dérangeante à mon avis. Enfin, j'ai des sentiments très ambivalents avec ça. Et donc il y a plusieurs scènes en fait où la question qui se pose, c'est pas tant est-ce que Solange est africaine, c'est est-ce que Solange est envoûtée en fait. Et elle-même, elle se pose la question. Enfin, mais c'est un. En fait, elle est juste en proie à ce qu'on appelle. En Occident, la passion, quoi. Mais il y a tout un ensemble de gens autour d'elle qui essaient de la soigner avec les moyens du bord, justement. Et il y a il y a plusieurs scènes donc où une féticheuse essaie de la désenvoûter. Et forcément, comme chaque fois qu'on met un peu le doigt là-dedans, il y a des coïncidences étranges, interprétables. Bon. Et Kouesso, lui, c'est un homme rationnel. Hein. Lui, il ne veut pas entendre parler de ses conneries. Lui, il a un film à faire. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'Africains comme ça. Il y a des Africains, hein, qui sont beaucoup plus athées et beaucoup plus rationalistes que moi. Enfin, j'en ai rencontré plein, quoi. Et que ces histoires-là emmerdent, quoi. Et en même temps, elles ont une puissance romanesque irrésistible. Donc c'est très intéressant aussi quand on écrit d'écouter toutes ces histoires qu'ont les gens là-bas à raconter.
Marie, merci infiniment. Mesdames, messieurs, merci.
Merci,
merci à la librairie Mola.
Attention.
Merci beaucoup.